Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Quand l'Italien le plus francophile qu'on puisse rencontrer, Giovanni Dottoli, termine ses cours de langue et de littérature française à l'université de Bari, où il enseigne, c'est dans la botte de l'Italie, il se met au clavier, non pas au clavier du piano, encore qu'avec lui on ne sache pas si peut-être qu'il joue aussi du piano, en tout cas au clavier de son ordinateur, de l'accordéon, bon. Et le voilà qui se plonge dans l'une de ses passions, le dictionnaire. C'est comme un explorateur, il part à la rencontre des marges, des frontières, des transgressions, des savoirs, des méthodes, des références, des critiques, bref, de tout ce qui peut alimenter sa dicopathie, si vous me permettez ce néologisme, qui figurera peut-être un jour dans les dictionnaires. Justement, bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard.
Merci d'être venu en ce début d'été 2012 où l'actualité pour vous est particulièrement riche car vous allez publier tout à la fois le dictionnaire de la langue française, théorie pratique et utopie, la mise en ordre de la langue dans le dictionnaire, puis va paraître bientôt dictionnaire et définition, puis une étude sur le dictionnaire général de la langue française, une révolution qui est un ancien livre, vous allez nous parler de tout ça, et paru récemment la symphonie du temps dans le dictionnaire. Bref, vous ne sortez pas des dictionnaires.
Je vis.
Vous vivez dans les
et avec le dictionnaire.
Alors, le tout premier que j'ai mentionné, le dictionnaire de la langue française, théorie, pratique et utopie, c'est paru chez Hermann et Vertige de la langue, collection Vertige de la langue, c'est la collection qui publie vos ouvrages, avec une préface de Daniel Morvan. Comment est organisé ce livre et qu'avez-vous voulu démontrer dans ce livre?
Bon, premièrement, Vertige de la langue, ça vient d'un de mes vers, parce que
vous faites aussi,
poète, que l'éditeur a bien accepté. Donc, c'est une collection que je viens de fonder il y a quelques mois, qui a déjà programmé entre 15 et 20 volumes. On y publie des études, des recherches, des textes commentés, en édition critique ou seulement commentés, d'une façon générale, d'après une perspective, l'unité de la langue, l'unité du lexique, l'unité du binôme langue-littérature ou trinôme culture. Alors, dans ce livre-là, j'ai essayé un peu de rassembler toutes mes idées, toutes mes perspectives, mes recherches autour du dictionnaire. Justement, le sous-titre dit « théorie », donc parce qu'il y a une théorie du dictionnaire, « pratique », il y a une pratique, parce que, comme le dit Alain Rey, mon ami Alain Rey, quand on parle dictionnaire, on parle d'artisanat du dictionnaire. Celui qui fait un dictionnaire est un véritable artisan, quelqu'un qui doit connaître les outils, le sens du métier. C'est un véritable métier, mais à part le métier, il y a puis, disons, la science. Il y a l'ordre, justement, du dictionnaire. Il y a la capacité de comprendre où va le mot et c'est quoi un mot. Utopie. Pourquoi utopie? Parce que chaque dictionnaire se pose une limite. La limite peut être des 500 000 mots de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert aux 63 000 mots, autour de 63 000, du Petit Larousse. Donc, ça dépend de la nature du dictionnaire. C'est un dictionnaire général, de spécialité, bilingue, monolingue, etc. Et donc, on fixe le nombre de mots. Mais c'est toujours une utopie. C'est-à-dire que la langue est une utopie merveilleuse qui a le sens du voyage du monde, d'un côté à l'autre du monde, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, et simultanément, l'utopie de la posséder en entier. Mais personne ne la possède en entier, bien naturellement. Même pas les poètes.
Même pas d'Alembert, alors.
Même pas d'Alembert,
voilà, on ne peut pas se prétendre être d'Alembert. Donc, ce livre, au fond, le dictionnaire de la langue française, théorie, pratique et utopie, il regroupe l'essentiel de ce que vous, Giovanni Dottoli, qui travaillez sur les dictionnaires depuis plus de 45 ans, 50 ans, enfin, je ne veux pas dire trop, parce que sinon, on va croire que vous êtes très, très vieux, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça regroupe bien l'essentiel de vos idées. papier. Et l'autre, alors, la mise en ordre de la langue dans le dictionnaire. Et vous allez me dire que de manière simpliste, je croyais que la mise en ordre, c'était toujours un ordre alphabétique. Il y a d'autres ordres dans les dictionnaires.
Il y a d'autres ordres. Alors, ce qui est étonnant, c'est presque paradoxal, l'ordre alphabétique est récent et moderne. On a inventé l'ordre alphabétique autour du XIIe, XIIIe siècle. Et ce sont les gens de l'Église qui, pour essayer de faire comprendre la nature de la Bible et des Saintes Écritures, ont, disons, organisé une sorte de liste des thèmes de la Bible par ordre alphabétique. Mais avant, on ne savait même pas que cela existait. Puis, bien sûr, on a compris, à partir du moment où est né le dictionnaire, que l'ordre alphabétique aurait pu être un ordre, je dirais, démocratique. Tout le monde peut accéder, il est facile d'y arriver. Mais à part cela, il y a un ordre du sens qui est l'ordre le plus important. Un ordre analogique, un ordre par exemple de famille des mots. Le premier dictionnaire de l'Académie française, qui paraît en 1694, s'organise sur un double ordre. L'ordre alphabétique et l'ordre de la famille des mots. Ce qui fait que le mot « je ne sais pas, table », il est là, mais tous les mots autour de table sont sous l'entrée table. Donc, c'est mixte. Et l'ordre alphabétique aussi n'est pas vraiment alphabétique. Les grands philosophes insistent sur le côté mystique de l'ordre alphabétique, le côté presque religieux. De fait, ça vient d'un moment religieux, comme je viens de le dire. C'est une sorte de tentative de la part du linguiste ou du dictionnariste. On l'appelle comme ça, au moins quelques-uns parlent de dictionnariste. Moi, je n'ai pas vraiment tout à fait d'accord avec ce mot. Je préfère dire artisan du dictionnaire. Eh bien, l'ordre alphabétique est un ordre qui fait la mise en ordre du cosmos de la langue. C'est ce vertige de la langue, justement, ce mouvement, parce qu'on pense que les mots sont fixes, les mots sont d'une matière vivante.
Volatile même. Ils s'échappent,
parfois
ils
volatiles,
vous échappent.
Oui, mais dans leur volatilité, ils sont très poétiques et pleins d'énergie. Donc, le poète, l'écrivain, le journaliste doit aller à la recherche de cette énergie pour bien écrire et pour bien passer l'énergie du mot aux lecteurs, aux usagers, aux citoyens, aux êtres humains.
Alors, pour les simples lecteurs que nous sommes, lequel de ces deux ouvrages pourrions-nous lire plus facilement? Parce que je crois que quand même la théorie du dictionnaire, c'est un peu difficile pour nous, non?
Les deux se lisent facilement.
Les deux se lisent facilement. La mise en ordre se lit facilement, parce que c'est un peu historique aussi.
J'ai une idée de l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut que n'importe quel écrivain, et là les grands, comme Baudelaire, comme Flaubert, comme Maupassant, comme Apollinaire, Bonnefoy, le prouve dans chaque ligne de leur œuvre, on peut dire l'impossible en se servant de mots simples, de mots faciles, de métaphores à la portée du monde entier. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, ce qui permet à mes étudiants, l'Université de Paris et même ailleurs, de posséder des instruments compliqués, d'arriver au cœur de la langue. Et cela est pour moi capital.
Alors, vous organisez aussi, Giovanni Dottoli, dans le sillage des journées du dictionnaire qu'organise depuis 17 ans, je crois, notre collaborateur Jean Pruvot, qui est aussi un ami pour vous et pour moi, vous organisez des journées italiennes du dictionnaire. Il y en a eu plusieurs déjà. Une à Cosenza sur la révolution du dictionnaire. Les prochaines vont porter sur quel sujet?
Les prochaines, ce sera au mois de septembre prochain, le 20 et le 21, sur l'espace du dictionnaire. Et immédiatement après, au mois de novembre, à l'université de Tirana, on va à l'étranger.
Là, c'est l'Albanie.
En Albanie, il y a une élève à moi qui a travaillé sur le Petit Robert. Et le sujet de ces journées sera le lien entre dictionnaire et enseignement. L'année prochaine, on a déjà fixé, ce sera à Naples, à l'université de Naples. Et le sujet sera la lisibilité du dictionnaire. Et ces journées italiennes naissent bien sûr des journées mirablement inventées, dirigées et pratiquées par mon ami Jean Pruvot, que je considère vraiment l'un des professeurs, des chercheurs les plus compétents et les plus importants dans ce domaine-là. Et Jean Pruvot lui-même, il a beaucoup aimé cette, disons, dérivation italienne parce que nous avons voulu que ce ne soit pas toujours la même université, mais un réseau d'universités italiennes du sud et du nord, et on commence à aller à l'étranger. On voudrait aller en Albanie, à Moscou, j'ai pensé au Maroc, à l'Algérie, mais cela viendra après. Cela nous confirme quoi ? Cela nous confirme que le dictionnaire est vraiment le livre de tout le monde, le livre où on trouve tout, le livre à tous, c'est le livre le plus démocratique, je le répète, parce que c'est là que toute la langue, des riches, des pauvres, des gens cultivés, des gens non cultivés, des gens qui savent à peine lire, tous ceux qui sont autour du dictionnaire s'y reconnaissent. D'ailleurs, on pense au dictionnaire toujours comme un dictionnaire monolingue ou bilingue. Le dictionnaire est vaste comme le monde. Donc, il est le monde, c'est le livre du monde, disait Furtière. C'est-à-dire qu'il peut être dictionnaire de spécialité, d'une spécialité presque impossible. Donc, tel domaine très restreint, et on en fait un dictionnaire. Moi-même, j'ai fait deux dictionnaires. Dictionnaire des citations de mon cœur et un dictionnaire d'aphorie-poésie, d'aphorisme. Donc, c'est deux dictionnaires d'ordre poétique, mais cela confirme que l'on peut passer du dictionnaire de l'aviation au dictionnaire de l'automobile, au dictionnaire de l'industrie, au dictionnaire de la langue. C'est la confirmation que le dictionnaire est vraiment le réseau qui unit toute la langue en l'offrant au public.
Voilà un bel éloge du dictionnaire par Giovanni Dottoli. Il nous reste à parler encore d'un ouvrage que vous allez paraître. C'est plutôt un essai, une étude qui s'intitule « Le dictionnaire général de la langue française, une révolution ». Ça, c'est un livre ancien que vous allez commenter.
Alors, à la fin du siècle, du 19e siècle, autour des années 80, Darmestetin a inventé l'idée des nouveaux dictionnaires monolingues de la langue française. Il ne faut pas oublier que Larousse et Littré venaient de paraître, donc le marché était vraiment bloqué, occupé. Mais Darmestetin et Thomas ont eu une idée fondamentale, c'est-à-dire qu'il fallait un nouveau dictionnaire qui s'occupe surtout de la définition. Il fallait vraiment bien définir le mot d'une façon précise, et on va parler de la définition une seconde, en ne dispersant pas le sens. Et le sens, chez Larousse, chez Littré, est très dispersé. On peut trouver une entrée qui prend 20 pages, 30 pages. C'est très bien, mais pour l'usager normal, ce n'est pas vraiment très pratique. Et je pense que ce dictionnaire qui paraît, il apparaît en fascicule, mais qui paraît en volume, tout juste au début du XXe siècle, l'année 1900. C'est presque symbolique. Avant les avant-gardes, au moment où on révolutionne tout, ce siècle de la révolution de la science, de la technique, de la communication, qui est le XXe siècle, commence par l'exposition universelle de Paris, d'un côté, et par la publication de ce dictionnaire, en deux volumes, ça fait 2000 et quelques pages, que je considère déjà le petit Robert de 66 ans après. Pourquoi ? Parce que les auteurs ont compris la valeur et l'importance fondamentale de la définition du mot. Ils arrivent à définir le mot par quelques mots en adoptant la première fois dans l'histoire de la langue française la progression du sens. Le sens de tel mot a, disons, une progression de sens, dans le sens que ça commence du général, à partir du général, et ça va vers le particulier, ou le détail. Et le petit Robert, c'est comme ça, ce sera comme ça. Le petit Larousse est comme ça maintenant, mais il ne l'était pas au début. Il est vrai que l'on avait aussi le petit Littré qui venait de paraître. Le petit Larousse n'avait pas encore paru, il paraît en 1905. Donc c'est une révolution fondamentale dans l'histoire du dictionnaire. Et je m'étonne que jusqu'à ce moment, on n'ait pas insisté sur l'importance de ce dictionnaire. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il valait la peine d'en faire et le livre qui va paraître dans 2-3 mois.
Et qui va paraître aussi chez Hermann Éditeur, toujours dans la collection Vertige de la langue.
Toujours dans la même collection,
Oui. Donc cette collection, au moins 15 titres actuellement, au jour où nous parlons, 2012, mais elle va s'enrichir certainement. Je voudrais aussi signaler dans cette même collection de Giovanni Dottoli un essai sur Montaigne, philosophe méditerranéen. Sur Canal Académie, vous trouvez une émission sur Montaigne avec Giovanni Dottoli et ce livre-là complète cette émission. Et puis, je voudrais signaler également, Giovanni Dottoli l'a dit tout à l'heure, il est poète et une première biographie poétique, une première biographie sur l'univers poétique de Giovanni Dottoli vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Elle est due à Éric Jacobet-Sivry et elle s'intitule « L'Arlequin de la lumière ». Merci Giovanni Dottoli de nous avoir fait partager votre passion des dictionnaires. On essaiera de s'y initier tranquillement.
Merci à vous et j'espère que les auditeurs, à partir de ce moment, aimeront et aussi, ils l'aiment déjà le dictionnaire, mais ils l'aimeront d'une façon plus large et plus poétique. J'insiste, pour moi le dictionnaire est une œuvre poétique, mais on en parlera une autre fois.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous Madame Renard et merci à tous les auditeurs.